Parfois, j'ai l'impression que nous mettons plus d'énergie à essayer de trouver les remèdes à la malbouffe, au mal de vivre, aux différentes maladies engendrées par une mauvaise alimentation, qu'à bien manger. Alors que nous devrions, au contraire, commencer par bien nous nourrir. Aspirer à une cuisine de rêve, même simple et modeste, une cuisine éthique et onirique, une cuisine qui aurait surtout du sens, le sens de l'harmonie et de la cohérence, une harmonie avec l'esprit, le corps, la nature. Olivier Rollinger est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Pour une révolution délicieuse ». Et comme chaque soir, nous allons commencer aussi de manière délicieuse avec Gilbert, le grand Gilbert.
Celui qu'on appelait le voyou de la plage, qui vivait tout l'été, jambes nues, cheveux fous, qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces, qui te jetait de l'eau, des algues, des cailloux, c'était moi. Mais qui savait le nom des 4000 étoiles, qui te prenait la main pour mieux te les compter, qui faisait d'un orage une carte postale, en dessinant ton cœur sur le sable mouillé, c'était moi, c'était moi. Celui qui se disait professeur de tendresse, qui se moquait de toi quand tu ne voulais pas, celui qui se vantait d'avoir eu des princesses et de se fiancer mais de n'épouser pas, mais qui ne riait plus en ouvrant ton corsage, ou qui riait trop fort en touchant tes genoux, qui s'endormait tout doux sur ton épaule sage, qui t'appelait pas belle et qui t'aimait beaucoup, c'était moi, c'était moi. Celui qui plaisantait un matin de septembre en piquant une rose à ton manteau de pluie, qui te disait salut, on allait bien ensemble et n'en a plus dormi, ni le jour ni la nuit. Celui qui ne sait plus ni ton nom ni ton âge, qui ne sait rien de toi mais que tu es jolie. Oublie-le, ce garçon qui crânait sur la plage et croyait tout savoir et n'avait rien compris. C'était moi, c'était moi. J'avais 15 ans, c'était moi.
Que s'est-il passé? Je crois que c'était un soir, Olivier Rollinger, quand vous faisiez des études scientifiques et que des garçons ont essayé de vous attaquer. Pourquoi ils vous en voulaient ce soir-là?
Bah, c'est une éternelle question pour moi. Je pense avant tout que c'était plutôt Orange Mécanique. Il n'y avait pas de, c'était pas pour de l'argent, c'était pas pour une idée, c'était pour rien. C'était se faire un garçon en pleine nuit. Donc c'était effectivement en 76, la veille de la fête des mères. Et j'étais victime de cette tentative d'homicide, ce qui a basculé ma vie, évidemment. Et ensuite, cette deuxième vie, c'était avant tout pour s'amuser et me promettre à jamais que je deviendrai jamais grand.
Et vous vous souvenez de cette traversée du coma et de ce réveil qui vous a décidé à changer de vie?
Oui, c'est-à-dire que il y a eu coma, il y a eu traumatisme, il y a eu multiples fractures. Mais au-delà, lorsque l'on a 20 ans, 21 ans et que on a les yeux rivés sur le plafond d'un hôpital pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, que l'on met plusieurs années pour apprendre à marcher... C'est quelque chose, c'est un espèce de ressort qui se comprime pour ensuite peut-être encore un peu mieux goûter la vie. et goûter les autres. Moi, ma thérapie, c'était de m'intéresser encore un peu plus aux autres, et plus ils sont différents, et plus ils m'intéressent. C'était surtout pas un moment fermé dans la vengeance, où la thérapie, c'était au contraire de m'ouvrir. Et d'ailleurs, j'ai raconté cette histoire-là d'une manière... c'était à Christian Millau, vous voyez, c'était très longtemps. Un jour, je suis confié un peu comme à un père, et je m'en voulais énormément. Je ne lui ai pas adressé la parole pendant 2 ans, parce qu'il avait trahi une partie de ma vie que je voulais totalement occulter. Et ce sont des associations de personnes qui ont été agressées, justement, qui sont venues vers moi, qui m'ont dit « Non, non, vous devez témoigner de quelle manière vous en êtes sorti pour finalement ne pas avoir peur de l'autre ». Vous savez, la peur de l'autre, c'est la pire des choses, parce que on peut engendrer d'ailleurs des attitudes et des comportements, et parfois même des choix politiques qui sont complètement insensés, et simplement par rapport à la peur. Donc au contraire, il faut... moi, je m'en suis sorti parce que j'ai cette chance d'aimer les gens.
Et vous en êtes sorti en changeant aussi d'orientation artistique, si j'ose dire, parce que vous vous destinez à devenir un scientifique, un chimiste, et puis... Alors, est-ce le goût de la vie, le goût des odeurs, la contemplation du paysage à Cancale qui vous ont donné l'idée que, avec cet air que vous respiriez, avec ces marins que vous fréquentiez, qui vous ont indiqué la voie, oui, je serai cuisinier?
Oui, vous présentez avec beaucoup de pertinence ce qui s'est passé, c'est-à-dire que... je travaillais bien à l'école, tout simplement, parce que je voulais faire plaisir à ma mère qui était seule. Mais le reste, je faisais à peu près toutes les bêtises. C'est pour ça que lorsque vous passez cette chanson, Le voyou de la plage, c'était moi, c'était un peu moi. Mais en travaillant bien à l'école, donc c'est les études supérieures, c'est maths sup, c'est préparation grandes écoles, ces choses-là. Mais lorsqu'il m'est arrivé cette fâcheuse aventure, je me suis rendu compte que tout ce qui était cartésien et rationnel était assez froid, stérile, insipide, et que je voulais me rapprocher du sensuel et des personnes. Et puis, exprimer le bonheur de vivre au quotidien. Cette vie que j'ai failli perdre, comment exprimer ce bonheur de respirer, de voir, de goûter les autres, de goûter. Mais je n'étais pas peintre, je n'étais encore moins musicien, j'étais encore moins un écrivain, j'étais pas un littéraire, j'étais un affreux petit scientifique. Et comment raconter le bonheur de vivre? Et pendant ma période de convalescence où les copains de ma petite enfance venaient avec des maquereaux, des crabes, des pommes de terre. Alors parce qu'il y avait certains qui étaient pêcheurs, les autres caseilleurs, ostréiculteurs, et puis les autres étaient cultivateurs, m'amenaient des choux, des pommes de terre, etc. Et il y avait les copains, les copines qui étaient étudiants, qui venaient pour remonter le moral avec des bouteilles. Et jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, il y avait 20 personnes. Ma mère reprenait goût à la vie. Et tout d'un coup, il était une évidence que le bonheur de vivre se passait autour d'une table. Et c'est là où... Bon, je vais arriver... en plus, là, je vais avoir la chance de rencontrer celle qui va devenir ma femme, Jeanne, et qui, elle termine pharmacie. Et puis je regarde ma mère cuisiner, puis je lui dis, mais oui, mais le bonheur de vivre, c'est dans cette maison, je peux pas l'abandonner. Il y a une autre alternative. J'ai failli partir faire la course au large. Je m'étais promis... Si je pouvais, j'ai la chance de pouvoir remarcher, ce serait pour faire de la course au large. Et puis finalement, eh bien, c'est une maison qui m'a gardé, parce que c'est une maison qui m'a vu naître. Et ma mère s'est battue pour garder cette maison afin de m'éviter une second traumatisme lorsque mon père est parti à l'âge de 13 ans. Je suis resté pour une maison, je suis resté pour une mère, je suis resté peut-être avant tout pour une femme, pour bâtir ce que je n'avais pas eu, une famille, et puis pour raconter le bonheur de vivre au quotidien entre ciel et mer dans ce petit port de Cancale.
Vous parlez de la mer, M-E-R-E, de votre ouais. mère, mais il y a aussi la mer sans oui. eux. Oui. Je vous propose d'écouter la voix de Michel Lubry, qui est un de vos voisins, ouais. qui a fondé ce festival magnifique qui s'intitule Les Étonnants Voyageurs. Écoutez comment il parle de votre mer, M-E-R.
Oh mon Dieu, il y a toutes les musiques du monde. la mer. Il y a le chuintement sur les goémons secs quand elles montent. Il y a la respiration douce. Le soir, souvent, quand elle devient lisse, il y a le grondement des vagues quand elles se forment, arrivent, déferment, les hurlements quand elles explosent contre les rochers. C'est pour moi tout le poème du monde. Je suis né là, et cette musique-là me hante encore aujourd'hui. Un jour, j'ai réalisé, j'ai écrit quand même pas mal de livres, et tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est curieux. J'ai commencé ce livre-là, les premières phrases sont venues en promenant dans le bord de mer, là où je suis né. Et puis, je dis, ah ben tiens, oui, celui-là aussi. Je remonte, et je me suis aperçu que tous mes livres, sans exception, ont commencé là. Comme si cette musique-là, ce grondement-là, portait... Tout d'un coup, il y a des mots qui venaient dessus, qui me prennent en général par surprise. Et je sais que c'est le début.
Que faites-vous, Olivier Rollinger, avec la mer ? Est-ce que vous marchez sur le sentier côtier ? Est-ce que vous arrêtez plutôt pour la contempler ? Est-ce que vous écoutez ce que vient de dire Michel Lebris, la musique de la mer, cette mer qui quelquefois fait peur ? Là, c'était il n'y a pas très longtemps les grandes marées.
Mmh. Alors... D'abord, j'aime toujours écouter Michel Lebris lorsqu'il écrit son livre « Un hiver en Bretagne ». Parce qu'on a évidemment étonnant voyageur, on était très liés. Et il est vrai que lorsque j'ai lu ce livre, j'avais l'impression que c'était moi qui l'avais écrit. C'est-à-dire qu'on a partage une enfance devant la mer, et lorsqu'on a la chance de pouvoir... Vous savez, écouter la mer et la voir danser autrement que simplement mettant un coquillage sur l'oreille, c'est complètement... Il nous suffit simplement d'évaler la rue comme ça et d'aller se confier à elle. Et puis, mais dans la mer, il y a évidemment la mer, mais ce qui anime la mer, c'est le vent. C'est très intéressant parce que moi j'ai tenté de... J'étais à la recherche du goût du vent dans ma cuisine. Et mon fils, qui aujourd'hui officie à Cancale, dans la maison de Bricourt, lui, il est peut-être, l'autre jour, on en discutait tous les deux, et je lui dis, toi, dans ta cuisine, qui est différente de la mienne, mais qui pourtant raconte la même histoire, les croyances de l'arrière-pays celtique, les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, le marchepied de l'aventure qu'est l'horizon, lui, il a plus le goût de la mer, il a le goût des abysses, il a ce sens des algues, parce qu'il est toujours, et moi, c'est le vent, et peut-être, alors moi, j'aimais le vent, parce que le vent, j'aime le vent parce qu'il vient toujours d'ailleurs. Et le vent nous a apporté justement ses parfums, nous a apporté non seulement l'aventure, mais le vent, grâce au bateau et par toute l'histoire de l'aventure maritime, il nous a apporté la connaissance de l'autre, du différent, d'autres rivages, d'autres soleils, d'autres cultures. Et c'est bien ce métissage qu'on retrouve à travers ma cuisine. Dès que l'on cuisine avec simplement un grain de poivre, c'est que l'on cuisine d'une manière métisse. Eh bien, cette rencontre culinaire, mais d'une manière culturelle, c'est-à-dire que s'enrichir du goût de l'autre réellement, ingérer ce que l'autre mange, quelque chose de très mystérieux, c'est tout ce que l'on retrouve à travers la magie des épices. Et c'est justement cette chose qui ne pousse pas chez soi et qu'on va aller la chercher l'autre côté de la planète. Enfin, pendant des siècles, on ne savait pas d'ailleurs de quel autre côté on allait chercher. C'est un petit peu comme si aujourd'hui on allait chercher au-delà des planètes connues des saveurs, des graines, des racines ou des fleurs qui pousseraient sur une planète totalement inconnue, quoi. Donc c'est ce goût de la mer que traduit Michel Lebris si bien. Ouais, c'est le goût du vent. Et en tous les cas, vous savez, lorsqu'on est en Bretagne, on apprend à godiller et à faire du bateau avant de faire de la bicyclette. Donc pour nous réussir, ça partir. Mais et tous les gens qui vivent au bord de la mer, d'ailleurs sur cette planète, ont quelque chose, cette dimension commune, c'est-à-dire qu'on se demande toujours si de la mer on est arrivé la veille, mais on peut toujours avoir la certitude que l'on peut partir le lendemain à nouveau sur la mer. La mer est un tapis roulant, et je pense que la mer unit les hommes, et c'est ce contraire, pas une frontière. La mer unit les hommes.
La mer unit les hommes, mais nous, les hommes, nous ne faisons guère attention à toutes les mers et à ces trésors qui sont dans la mer et grâce à la mer. Vous publiez un livre important qui est un plaidoyer pour une éco-responsabilité, pour un arrêt des dommages quotidiens que nous, l'humanité, nous commettons envers la planète. Vous analysez et argumentez cette manière si violente que nous, les hommes, avons d'attenter à l'intégrité, notamment de la mer. Pourquoi est-ce qu'on continue tous les jours? Alors parlons-en de la mer et des manières de pêche que vous décrivez avec précision et rigueur dans ce nouveau livre. Le saccage quotidien organisé mondialement des océans.
C'est pas un saccage, c'est un pillage total. La mer, elle souffre de différentes choses. La première, c'est évidemment le pillage. 100 millions de tonnes sont pêchées tous les ans de poissons. 40% des poissons qui sont pêchés ne sont pas ramenés à terre. Vous savez, on parle de gaspillage alimentaire, on dit nous sommes trop nombreux sur la planète. Mais il y a déjà 40% de ces 100 millions de tonnes qui sont pêchées tous les ans. Un autre chiffre, 5% des poissons qui sont pêchés, donc 95%, pardon, des poissons qui sont pêchés par 5% des pêcheurs. C'est-à-dire que c'est la pêche industrielle avec des techniques aujourd'hui extrêmement perfectionnées, puisqu'on travaille avec des radars et ils savent pertinemment à quel moment il faut venir.
Et ils raclent les fonds.
Ils raclent. Enfin, c'est totalement intrusif. Et dans beaucoup d'endroits dans le monde, la mer est déjà devenue un désert liquide. Les conséquences sont absolument énormes. Et les rares poissons, enfin le peu de poissons maintenant qui nous restent, est bourré de plastique et de dioxines. Comment, on sait tous que la vie vient de la mer. Et donc ce pillage d'une part, la pollution qui est liée, on a considéré que la mer c'est une immense poubelle qui peut tout régénérer en permanence. Aujourd'hui elle est arrivée à saturation, ces pauvres océans. Et enfin, ces émissions de gaz à effet de serre qui engendrent une forme d'acidification de la mer, un anéantissement total de cet écosystème. Donc il nous appartient, nous les cuisiniers, parce que il s'agit pas de pointer du doigt, moi je m'en suis rendu compte, parce que c'est pas les pêcheurs qui sont à Cancale et à Saint-Malo qui ont anéanti les océans, vous comprenez, c'est aujourd'hui on est arrivé à des aberrations, certains sont même allés sur la pêche électrique, c'est-à-dire qu'on balance une espèce de chaise électrique au fond de l'eau, parce que c'était nos amis hollandais, là, ils trouvaient que, effectivement, les profits n'étaient pas suffisants pour ces compagnies de pêche qui étaient déjà extrêmement efficaces, mais pas suffisamment. Mais alors, pourquoi pas, allons-y aussi carrément à l'explosif, quoi. On est totalement inconséquent vis-à-vis de la mer, et il nous appartient, nous cuisiniers, mais pas simplement les cuisiniers, mais simplement lorsque vous avez sur l'étal de poissons, de laisser de côté un petit peu les poissons dont les stocks. Parce que qu'est-ce qu'un poisson durable? Il est important de dire, parce que les gens me disent la mer, bien, lorsqu'on prend des poissons dans la mer, c'est un petit peu comme si on se décidait de se nourrir de viande simplement avec du gibier. Ce sont des animaux sauvages. Et on va pas pouvoir nourrir la planète avec tous ces animaux sauvages, parce qu'il y en a plus. Donc il faut gérer.
Mais il y a de plus en plus de poissons d'élevage sur les étals
des
poissonniers.
Mais alors, je vous en parlais des poissons d'élevage, parce que c'est un autre scandale, le poisson d'élevage. Alors tout d'abord, ces poissons, un poisson durable, c'est un poisson dont le stock est en bon état. Deuxièmement, on ne le pêche pas alors que sa taille ne lui a pas permis de se reproduire. Et puis enfin, c'est aussi une saisonnalité. Et pour terminer, ces techniques de pêche intrusives, extrêmement agressives pour l'ensemble de l'environnement sous-marin. Lorsqu'on a dit ça, on dit, donc on va prendre par exemple, nous, plutôt que de faire du tartare de bar, ben on va faire, ou enfin tous les cas, parce que tout le monde aujourd'hui, on veut des poissons crus, eh bien prenons un chinchard.
Il y en a chez vous, du poisson cru?
Oui, des poissons marinés, bien sûr, ça peut être délicieux. Mais par exemple, un chinchard, les Japonais, par exemple, considèrent que le chinchard, c'est le meilleur poisson cru. Et je sais, ce sont des grands spécialistes. Eh bien nous, il est très peu pêché, et quand il est pêché, bien souvent, il y a encore pas très longtemps, on le donnait aux chats. Donc c'est complètement culturel. Donc c'est surtout aider.
Mais c'est pas cher.
Et c'est pas cher du tout. Et donc il faut
aider. Et le macro non plus.
Et le macro non plus. Et le lieu non plus. Et il faut aider cette filière de la pêche. Il faut aider ces pêcheurs pour que nous, historiquement les cuisiniers, entre guillemets, les plus reconnus, eh bien, mettions en avant ces poissons qui n'étaient pas nobles et se rappeler que les poissons nobles, autrefois, ont obtenu leur titre de noblesse, si je puis dire, non pas parce qu'ils étaient bons, ils avaient des propriétés organoleptiques, mais parce qu'ils avaient une faculté de, conservation, comme la sole et le turbo. Mais aujourd'hui, avec la chaîne de froid, c'est plus facile. Maintenant, juste deux mots sur le poisson d'élevage. Le poisson d'élevage, on leur donne de la farine de poisson. C'est-à-dire que pour avoir pour produire, par exemple, 1 kg de vilain saumon d'élevage, il faut 5 kg de poisson sauvage. Et on fait appel à des bateaux minotiers, et le vocabulaire est intéressant, comme si les bancs de poissons poussaient comme des blés tous les printemps, à des poissons minotiers pour faire de la farine de poisson, pour nourrir, qui sont pêchés en général dans des eaux territoriales appartenant à des gouvernants peu scrupuleux et qui vendent ces eaux territoriales. Je pense au Golfe de Guinée, je pense au Bangladesh. Et là, on fait appel à des filets dérivants sur des kilomètres et qui prennent tous ces poissons pour faire de la farine, pour nourrir des poissons d'élevage en Norvège ou je ne sais où, qui sont bourrés d'antibiotiques, bourrés d'intrants absolument inacceptables. Il faut arrêter, parce que c'est un massacre. Évidemment, au niveau de l'environnement, mais c'est un massacre, c'est un scandale humanitaire par rapport à ces populations dont la pêche est absolument indispensable à leur survie et qui tout d'un coup se retrouvent avec des zones totalement dévastées parce que des pêcheurs industriels sont arrivés là et ont raclé absolument tous les fonds. Donc voilà l'état des océans qui est le premier. Vous savez, nous, en tant que ce livre, moi, je prétends pas détenir. Je suis pas un scientifique. Je pense qu'il y a trois grands sujets demain, trois grands sujets politiques. C'est pas de savoir si on va travailler une année de plus le sujet politique. C'est de savoir génération à venir, quel air allons-nous avoir pour respirer, quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater.
On en parle beaucoup, hélas, en ce moment.
Et quelle alimentation. Donc, ça, c'est de vrais grands sujets. Et là, les cuisiniers, pas les cuisiniers étoilés, non, les cuisiniers, d'abord, ceux qui
nous
nourrissent,
nous.
Et chacun d'entre nous.
Pas seulement les grands chefs étoilés comme vous.
Mais surtout pas, mais cet acte essentiel pour prolonger la vie de chacun, qui est de nourrir. Eh bien, pour nourrir, il nous faut un garde-manger. Le garde-manger, c'est la nature et c'est le vivant. Et pour prendre soin de ce garde-manger, il nous faut des pêcheurs et il nous faut des agriculteurs. Pour prendre soin, mais avec la nature, pas contre la nature. Pour nourrir, justement, l'humanité. Et là, c'est retrouver le plaisir, justement, aussi de bien manger. Le problème, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a confié l'alimentation aux multinationales. On a tous une paration. On est tombé dans le piège. On a considéré que se nourrir, c'était pousser un caddie le samedi après-midi dans un supermarché pour prendre des plats tout préparés qui sont bourrés de gras, de sel, de sucre, d'arômes de synthèse et de texturants de synthèse.
Formidable. Racontez-nous, Olivier Rollinger, ce qui vous est arrivé quand vous étiez, et vous êtes toujours, puisque c'est vous qui avez donné votre démission alors que vous étiez triplement étoilé au guide Michelin.
Oui.
Vous avez été invité dans une cérémonie, je crois que ça se passait à Paris, organisée par Bocuse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'était lors du Bocuse d'or, là, qui en finale nationale. Et là, j'ai fini par me retrouver. Donc, j'étais jury. Et à un moment donné, on m'a demandé de mettre une veste d'une grande société, enfin, une espèce de supermarché pour restaurant. Et on m'a dit, il fallait mettre une toque avec le nom qui commence par un M de cette grande marque, hein. Et puis ensuite, il y avait un déjeuner, donc il y avait le déjeuner à l'Élysée avec tous les grands chefs, et j'ai vu mes collègues que j'aime beaucoup, qui sont des personnes qui ont énormément de talent, et j'ai vu avec cette veste M, voilà, en bleu.
Mais dites-moi, vous avez une fourchette dans votre veste, là?
Oui.
Tout d'un coup, je suis en train de voir qu'il y a une fourchette.
Non, mais c'est...
À la place d'une décoration, vous avez une fourchette.
Ben oui, non, mais pourquoi une fourchette? Mais une fourchette permet d'abord de déguster.
Vous nous avez rien apporté à manger, là.
Et pas simplement de déguster la vie. Par contre, je vous invite, peut-être qu'on va les cuisiner après, parce que l'importance... Non, mais une fourchette vous permet tout d'abord de déguster la vie, mais surtout, ça peut être aussi une arme pour faire vaciller ces multinationales qui se sont appropriées l'alimentation de chacun et qui ont mis à genoux le monde agricole, les ont entraînés dans une impasse effroyable. Et pour nous, qui nous ont oublié ce premier acte, ce premier plaisir. Alors,
c'est évidemment
une fourchette sympathique pour nous, mais néanmoins qui peut avoir plus de poids qu'un bulletin de vote, parce que c'est l'alimentation, la nourriture est au carrefour des enjeux de nos sociétés, enjeux socio-économiques. On voit là je vais pas reparler de au niveau du drame de l'agriculture et de nos agriculteurs et de nos éleveurs.
On va en parler, mais vous n'avez pas terminé. Excusez-moi, je vous ai interrompu votre histoire a essayé de vous faire enfiler une blouse et puis la toque.
Et puis
avec
la toque.
La
alors évidemment, comme je n'avais pas de veste de cuisine, j'étais obligé de l'enfiler, mais donc il y avait cette grande publicité de ce supermarché pour restaurant, ou même parfois les plus grands vont servir d'ailleurs. Et j'étais obligé de mettre un espèce de garrot en disant que j'avais mal au bras, je pouvais pas. Donc évidemment, il y avait les grands patrons là qui étaient absolument furieux, tout le monde était furieux, parce qu'évidemment, c'est eux qui financent. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là, qui veulent aussi s'approprier finalement cette première liberté du cuisinier, mais lorsqu'on fait ses courses, c'est la liberté de choisir. Or, on tombe dans le panneau dans lequel l'ensemble de la population est tombé. C'est-à-dire que 85% de la nourriture en France passe à travers les supermarchés. Alors, les supermarchés, c'est 4 centrales d'achat. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale d'achat qui s'occupe de l'alimentation? C'est environ une douzaine de personnes. Ça veut dire 4 multiplié par 12, ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de personnes qui décident ce que l'on va manger. Et quand vous rentrez dans un supermarché, vous êtes persuadé que vous avez du choix. C'est pas vrai. Il y a à peu près une vingtaine de marques qui prend la très grande majorité de tout ce que l'on vous propose. Donc, je demande à chacun...
C'est eux qui construisent le goût et pas vous, les grands chefs cuisiniers.
Mais pas du tout. Ils formatent. Mais regardez même au niveau du café, on oublie même le grain de café, on vous met des petites boîtes bourrées d'aluminium, qui est le café le plus cher du monde, le plus inéquitable du monde. Vous met des plus... Et juste le portrait d'un acteur...
Il est beau.
Tout simplement parce qu'il est beau, on va vous parler, mais que l'on pense déjà à ses producteurs, que l'on pense à la qualité du café et que surtout on ne standardise pas les goûts. Je pense que le plaisir de manger, le plaisir d'aller à un marché aujourd'hui avec les AMAP et de reprendre toute la journée, on est là avec des ordinateurs, mais rentrer à la maison. Je suis sûr qu'à cette heure-ci, il y a des gens qui ont déjà cuisiné, mais le plaisir, c'est Aristote disait... Une définition de l'amour, l'amour c'est vouloir faire du bien à l'autre. Alors si la définition d'Aristote, si nous retenons cette définition, alors la cuisine est sûrement le premier acte d'amour.
Vous êtes en colère et vous avez raison, mais votre livre n'est pas un livre de plainte, ni même de revendication. C'est un livre qui philosophiquement analyse la situation dans laquelle nous sommes, tous responsable et peut-être dans le devenir le plus rapidement possible éco-responsable. Pour cela, il faut que notre responsabilité individuelle soit clairement établie et que chacune et chacun d'entre nous fasse des gestes qui peuvent apparaître anodins, tout petits, aller chez les producteurs locaux, acheter les légumes de saison, les poissons de saison, les plats de saison et ne pas se faire dicter nos comportements, comme vous le disiez tout à l'heure, par des centrales d'achat. Oui. Il faut aussi pouvoir se faire entendre par les tutelles politiques qui sont elles-mêmes, évidemment, sujets et objets de pression de la part de ces lobbies. Donc, comment s'en sortir dans un avenir assez proche?
Eh bien, justement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre. J'ai écrit parce que j'allais avoir mon petit-fils qui allait naître, qui vient d'avoir un an, Ulysse, et comme un témoignage et comme une adresse, mais surtout... pour peut-être aider les politiques. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent tous ceux qui font de la politique sont des pourris. Tout ça. Je pense qu'une très grande majorité de gens qui s'investissent, en particulier au niveau des territoires, sont des gens d'une très grande intégrité et qui sont souvent un peu perdus et souvent perturbés par ce qu'on appelle des lobbies, des experts, des gens qui leur racontent des histoires et la messe et la population, eh bien, n'est pas entendue. Et je pense que ce livre va aussi permettre à beaucoup de politiques de dire, et moi je me rends compte, vous ne pouvez pas imaginer, sorti début septembre, le nombre d'associations, de groupements, de gens très sensibles qui se retrouvent sur le terrain. Et tout vient de la base. Mais surtout qu'ils nous entendent, ces politiques. Que ce changement de mode de vie, de se réapproprier la liberté alimentaire est absolument capital. Parce que, vous savez, la cuisine et l'alimentation, c'est aussi une concorde.
Regardez ce qui se passe à la télévision. Nous sommes en direct. Ah ben c'est fini. Pardon. Non mais on nous vantait des frites surgelées, voilà. Ben, voilà. Non mais c'est à la pub.
Non mais c'est absolument monstrueux. Mais vous savez, mais c'est, l'autre jour, il y a un grand quotidien, un grand magazine national, qui justement, j'ai eu un entretien avec avec ces journalistes, et ensuite tout l'article est passé avec en toile de fond, une grande surface de piètre qualité et évidemment des burgers encore pires. Et si finalement je me demandais si la régie publicitaire n'avait pas vendu finalement un peu plus cet espace sur Internet, parce qu'il y avait justement l'intervention et de l'association des Relais Châteaux qui regroupe les meilleurs cuisiniers de France et dans le monde d'ailleurs. Et c'est insupportable, si vous voulez. Il y a un moment donné où il faut reprendre à bras-le-corps notre liberté, notre souveraineté alimentaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle à ce soulèvement pacifiste et joyeux, parce que c'est même une question de survie demain, et tout passe par l'éducation alimentaire. C'est pour ça que les enfants, moi j'ai déjà demandé, bon, j'ai pas encore reçu le ministre de l'éducation nationale, mais je pense que la France, qui est le pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit du bien manger. Et le droit du bien manger pour tous est pas réservé comme un privilège à quelques-uns. Et l'éducation alimentaire devrait être obligatoire de 6 à 16 ans dans toutes les écoles de la République. Pourquoi ? Parce qu'on y apprend le vivant. On apprend. Aucun logiciel peut donner une petite graine que l'on va mettre comme ça dans un endroit qui va juste germer, qui va faire une petite herbe, un petit arbrisseau, un arbre, la vie, le vivant. Expliquer à un enfant qu'un yaourt, c'est pas simplement décapsuler une espèce de truc en plastique, que c'est du lait, et que ce lait, il a fallu avoir une vache, qu'il va falloir traire la vache, que pour que la vache ait du lait, avant, il fallait qu'elle obtienne un veau. Donc, tout le cycle de la vie. Expliquer dans une école ce qu'est un potager, ce sont les saisons. Apprendre à un enfant à faire un potage, à faire une carotte râpée, à faire une vinaigrette. Apprendre également la géographie des produits, l'histoire aussi des produits, toute l'histoire de l'humanité à travers l'alimentation. C'est une formidable histoire. Et on pourrait aussi imaginer que tout d'un coup, on peut un petit peu mieux comprendre pourquoi un enfant va manger halal et puis un autre va manger cachère. C'est un forme. Je pense que la France a.
Dans nos livres de lecture, quand on était enfant, il y avait des dessins qui représentaient tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
Parce qu'on est devenu de plus en plus urbain et on a déconnecté complètement. On s'est déconnecté de la nature. Alors aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les profs parce que à l'époque, moi, mes profs, ils étaient trotskistes, maoïstes. Et en plus, moi, j'étais indépendantiste breton, donc nous l'étions tous. Mais et aujourd'hui, et je salue l'ensemble de ces professions parce que c'est pas un boulot facile. Chaque fois que finalement la société, en particulier les familles, on ne remplit plus notre rôle, on dit on va donner ça à l'éducation nationale, on va donner ça aux instituteurs, aux professeurs. Mais depuis maintenant près de deux décennies, les professeurs ont pétri la jeunesse d'écologie. C'est un mot qui n'existait pas pour nous. Eh bien, tant mieux. Par contre, aujourd'hui, il faut absolument que cette écologie bascule dans l'alimentaire, que se rapproprier l'alimentation, c'est le prolongement de notre vie, mais il nous faut une nature, et il nous faut une belle nature vivante, et ce qui va permettre justement à cette nouvelle agriculture de totalement se développer et de retrouver une concorde entre réconcilier la campagne et la ville. C'est pas supportable aujourd'hui. Évidemment, on comprend et on compatit pour tous ces agriculteurs qui ont les dénis, mais vous savez, ils ont servi totalement
de cobaye,
à la fois de cobaye, mais au-delà, c'est eux qui font la balance, c'est-à-dire que il y a ceux qui produisent, donc ça, et puis il y a ceux qui mangent, les consommateurs. Entre les deux, il y a des profits qui sont constants. Oui, j'allais dire, ce sont deux variables d'ajustement, ceux qui produisent et ceux qui mangent. Mais entre les deux, il y a trois constantes. Ce sont les profits des dirigeants de l'agrobusiness, les profits des banques et le profit des grandes surfaces. Là, ce sont des constantes de profit. Entre les deux, alors là, et à la fois les agriculteurs et à la fois les mangeurs, eh bien, nous devons nous retrouver pour retrouver le plaisir de goûter ces formidables produits que nous avons en France. Et ces choses-là, il faut inciter les politiques. Et c'est pas contre les politiques, mais il faut les inciter à prendre les bonnes décisions qui commencent à être totalement dans l'urgence, effectivement, pour que nous reprenions la France, cette véritable souveraineté alimentaire et du plaisir de la table.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Vous n'avez pas choisi un bar de breton, Olivier Rollinger. Vous avez choisi Phoenix. On l'écoute. They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret words will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be vain or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground. And the sickle is silent in my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a start. Feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the tightrope.
Il y a chef et chef. Vous avez le chef chez Jacques Borel, et puis vous avez le chef d'une grande maison, et le chef d'une pizzeria, vous avez le chef d'une grande maison. Mais disons que chef au niveau où j'en suis moi, c'est chef, et puis c'est beaucoup de choses en même temps. C'est chef de cuisine, c'est homme d'entreprise, chef d'entreprise. Parce que maintenant, je dis que pour avoir un établissement comme ça, il faut avoir une gestion extraordinaire. Parce que croyez-moi, quand on a investi une fortune, moi j'ai dépassé 10 millions de francs d'investissement partant avec ma brosse à dents. Hein. Enfin, un centime d'apport personnel, puisque je vous expliquais que personne ne m'a jamais donné un centime. Donc tous les banquiers ont joué le jeu sur moi, ils ont dit bon, c'est peut-être un bon cheval, je suppose, j'en sais rien, on verra, c'est les années qui le diront. Et à partir de là, il faut absolument avoir un super comptable. Moi j'ai une comptable à demeure ici chez moi, tout, je commence à m'informatiser. Il faut savoir connaître les ratios et tout. Vous savez, dans le temps du père du Maine, le gars il est arrivé avec 3 bouteilles de rouge, l'autre il lui donnait 1 kilo de truffe, il y avait des échanges comme ça, vous voyez, c'était extraordinaire, il n'y a pas de facture, c'était une époque exceptionnelle. naturelle. Alors que maintenant, il y a intérêt à faire attention, hein. Les truffes, ça vaut quand même, ça va se transiger à peu près dans les 1600 francs le kilo cette année. 1600 francs le kilo, mais ce que je veux dire, ça fait 16 francs les 10 grammes, il faut les peser, hein, les truffes, hein. Parce que si on met dans une assiette, on met des truffes en disant on va mettre des truffes, et vous allez vendre l'assiette 300 francs, les gens, ils vont déjà la trouver trop chère à 300 francs. Et puis vous, ça vous coûte 350 francs parce que vous avez pas pesé les truffes. Donc tout ça, c'est, il y a beaucoup de choses. Et puis il faut être décorateur. Il faut être tout, hein, fleuriste. Il faut, c'est un métier, puis aussi de psychologie aussi vis-à-vis de la clientèle. Hein. Il faut bien avoir avec le client, quand le client y vient ici, il faut que chaque client qui vient ici, c'est comme s'il était connu depuis toujours, et puis que on s'occupe de lui, le petit chien de madame et tout. Tout ça, c'est très important. Hein. C'est un métier.
Ouais, nous venons d'entendre la voix de Bernard Loiseau.
Beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment un homme. C'était un camarade de jeu, c'était un joueur et c'était quelqu'un qui aimait, qui goûtait la vie comme personne. Mais j'aimais l'écouter et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous voyez encore toute cette génération...
Alors il faut expliquer qui était Bernard Loiseau, expliquer qui, hélas, cet entretien s'est déroulé très peu de temps avant sa disparition volontaire et son suicide. Pour des raisons encore inexpliquées, mais beaucoup ont dit dans votre milieu, Olivier Rollinger, puisque vous étiez chef aussi étoilé, 3 étoiles Michelin, que la raison principale, c'était son angoisse de ne pas avoir le renouvellement de ces 3 étoiles.
Peut-être, je pense que ceci appartient à sa famille avant tout, et ça reste pour nous tous un grand mystère.
Et en tous les cas, chef du terroir qui revendiquait le terroir comme
le terroir et une immense peine parce que c'est il restera toujours dans notre cœur, Bernard, c'est certain. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, moi j'aimerais bien justement l'écouter parce que c'était déjà quelqu'un qui avait compris la notion du terroir, l'importance de son territoire, qui revendiquait, il avait une dimension très humaine après tous ces... Mais je crois malgré tout que l'on restait dans une tour d'ivoire. Vous voyez, on parle des guides, on parle de nos clients, de nos équipes, de nos petits producteurs. Mais on restait en vase clos, c'est-à-dire que on ne s'occupait pas de ce qui se passait dans la rue, on s'occupait pas de ce qui se passait pour l'ensemble de l'alimentation, on s'occupait pas de ce qui se passait pour l'agriculture en général, on s'occupait pas du bien manger pour tous, on s'occupait et j'en faisais partie, on était ces artisans et on était dans notre tour d'ivoire.
Enfin, vous êtes un homme particulier dans le milieu des grands chefs triplement
étoilés. Non, ne pensez pas ça. Moi, je vois dans le mouvement.
Vous avez rendu vos 3 étoiles. Oui, vous êtes que 3 dans la profession.
Oui.
Récemment, il y a très peu de temps, Marc Véra a occupé l'actualité en disant « Je veux les rendre, mes 3 étoiles ». J'ai pas l'impression qu'il l'ait encore fait. Mais vous, c'est vous qui avez devancé le mouvement. Vous contestez aussi cette manière d'être surveillé, noté comme des enfants.
J'ai fermé le restaurant 3 étoiles pour des problèmes de santé qui me rattrapaient par rapport à cette agression en 1976. Et à un moment donné, j'aurais eu 2 étoiles, j'aurais fermé ce restaurant. J'aurais eu 1 étoile, j'aurais fermé ce restaurant. Et j'aurais eu une baraque à frites, j'aurais fermé ce restaurant. Donc à un moment donné, c'était très clair. Et puis ensuite, j'ai voulu, comme j'avais ce problème de santé, j'ai voulu mettre tout le monde à l'abri. C'est-à-dire avoir une entreprise qui puisse fonctionner sans moi. Et puis bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon fils qui est revenu, notre fils. Et puis et ma fille aussi qui est revenue. Alors que lui était officier de la marine marchande et elle... avocate, c'est absolument incroyable. Vous savez, le cours de la vie comme ça vous amène.
Mais c'est vrai que vous êtes l'un des premiers à lancer un mouvement de responsabilité en dehors de la pratique artistique ô combien magnifique que vous faites dans la cuisine, dans votre cuisine.
Bien oui, parce que. Vous savez, la cuisine
est avant... Vous êtes suivi par d'autres ?
Mais beaucoup. La preuve en est, c'est que moi, je suis vice-président à l'International des Relais des Châteaux. Nous avons, en 2014, déposé, en novembre 2014, un manifeste à l'UNESCO pour, justement, défendre la diversité des cuisines du monde. Parce que derrière chaque cuisine, et surtout pas défendre simplement la cuisine française, le patrimoine immatériel de l'humanité, c'est pas telle ou telle cuisine. Le patrimoine de l'humanité, c'est la diversité des cuisines du monde. Avec... dans leur art de vivre. Et avec, parce que derrière chaque cuisine se cache la biodiversité végétale, animale, le savoir-faire. C'est ça la beauté du monde, c'est sa diversité. C'est pas dire une espèce d'hégémonie en disant celle-ci est la meilleure. Non, tout dépend de l'endroit. Dans les endroits les plus secrets du monde, on a justement l'expression d'un environnement naturel, l'expression d'un environnement culturel et évidemment l'expression d'un environnement affectif, parce que la cuisine, pour être belle, bonne et grande, il faut qu'elle s'écrive avec le cœur. Donc ces cuisiniers dans le monde, qui sont au nombre de 550 aujourd'hui, dans 62 nationalités, j'ai souhaité effectivement porter, et ils m'ont élu, ils m'ont mandaté pour les représenter avec cette vision des choses, pour dire, il nous appartient, nous les cuisiniers, à être peut-être les plus vertueux et à peut-être à déjà à entrevoir l'avenir pour l'alimentation de tous. Et si nous, nos producteurs, on ne doit pas se les garder pour soi, on doit au contraire les faire vivre et leur permettre de produire des produits d'excellente qualité pour nous tous. Là, je travaille aujourd'hui Thierry Le Marchand avec un garçon qui avait 88 vaches froment du Léon qui font simplement 8 litres de lait par jour, alors qu'une Holstein, c'est 40 voire 45 litres. Eh bien, ce sont des laits à beurre.
Les appelle les vaches de madame.
Les vaches de madame, absolument merveilleux. Alors, eh bien, c'est un beurre qui a donné, mais le titre où j'ai le beurre breton salé, c'est une merveille. On fait pas de fromage.
Arrêtez,
chez
vous
nous
donnez
on
faim. Fait, ouais.
Et donc, et ce beurre, il est vivant, il a le goût. J'allais pas dire du jour, mais il a le goût de la veille et de l'avant-veille avec ces deux crèmes qui ont été mélangées. Il nous appartient de mettre en avant tous ces femmes et ces hommes qui façonnent justement la nature et les campagnes de France. Et si nous ne le faisons pas, ce job, mais qui va le faire? C'est sûrement pas ces centrales d'achat, c'est sûrement pas... Et les politiques qui sont souvent un peu pieds et mains liés par des lobbying, par des habitudes, par des impressions de pouvoir de ci, de là, et même la presse qui est aujourd'hui complètement avalée et complètement vendue justement à ces grandes marques.
Pas toutes.
Pas toutes, bien évidemment, il s'agit pas de...
Pas nous.
Mais reconnaissez un grand nombre. Donc, en tous les cas, il y a là des puissants. Et vous savez, la Boétie disait, ils sont puissants parce que nous sommes à genoux. Alors, il nous appartient simplement de se lever et de dire, voilà, nous voulons retrouver le plaisir de bien manger en France et que la France ne rayonne pas simplement à travers ses restaurants étoilés, mais rayonne d'une manière globale avec son monde agricole, paysan et le talent de tous ces hommes et ces femmes qui cuisinent à la maison. Vous cuisinez en ce moment à la maison. Et la gastronomie française, c'est prendre un poireau, une pomme de terre, un oignon et de faire un délicieux potage avec évidemment... en faisant chanter et danser avec quelques épices du monde, parce que c'est une manière aussi de réimaginer aussi une cuisine différemment, avec sûrement moins de carnet, avec plus de céréales, mais avec toujours du goût. Et je pense que demain va être extraordinaire, parce qu'on va écrire une véritable cuisine santé, plaisir.
Vous voulez pas devenir ministre de l'alimentation là au prochain changement de gouvernement, Olivier?
Mais non, il m'appartient pas. Mais par contre, il nous appartient à tous de les aider à prendre les bonnes décisions.
Alors, je voudrais ajouter deux choses. Que votre livre plaide pour une cuisine simple, pour une cuisine métissée. Vous êtes un grand voyageur. Vous avez inventé l'art des épices et ce depuis des décennies. Vous plaidez pour les cuisines traditionnelles des pays non occidentaux où à partir de vermicelle de riz, on peut faire des choses absolument exquises. Et puis d'autre part, vous plaidez pour la simplicité, la proximité. Oui. Ça nous permet de rester optimistes parce que vous nous dites, et on le voit tous les jours, qu'il y a des jeunes générations qui sont de plus en plus éco-responsables. Et en guise de fin, parce qu'hélas, l'émission est bientôt terminée, je voudrais... que vous nous lisiez la fin de votre livre où vous appelez à des choses extrêmement concrètes et simples à exécuter.
Mais en France, que pouvons-nous faire? Premièrement, acheter frais et local. Deuxièmement, diminuer notre consommation de produits frais venant des quatre coins du monde toute l'année. Je pense aux tomates et aux fraises en se rappelant que l'émission de CO2 du transport aérien rapportée à 1 kg est près de 30 fois supérieure à celle par bateau. 3. Diminuer notre consommation de viande, surtout rouge, et encore plus des plats préparés. Pourtant, je suis viandard. 4. Renoncer aux produits surgelés. 5. Ne plus gaspiller. 6. Voter pour que l'Europe retrouve les clés de l'agriculture et de la pêche en retrouvant un pouvoir décisionnel face au lobbying de tout genre.
Cette fois encore, les chefs du monde doivent ouvrir des pistes pour aider chacun à relever ce défi comme une opportunité. Avec tous les chefs du monde de l'Alliance Slow Food et des Relais et Châteaux, nous sommes engagés dans le mouvement Food for Change. Comme nous regardons le prix de chaque produit acheté, nous devrions connaître l'empreinte carbone de chacun. Cette prise de conscience fait du bien en redonnant à chacun un rôle majeur dans la vie de tous les jours. Mais dans l'expression « chaud devant », employé dans les cuisines, l'urgence est évidente, nous le savons tous.
Merci professeur Rollinger, bravo pour ce livre qui
merci
est
infiniment
extrêmement
de m'avoir
important et délicieux aussi à lire et qui s'intitule « Pour une révolution délicieuse ». Et je dois dire que celle qui a inventé le concept, c'est une femme.
Merveilleuse, Alice Waters, remarquable femme,
le slow
amoureuse
food.
De la France, représentante de Slow Food pour le continent nord-américain qui est une grande amie.
Merci infiniment. Ce livre vient de paraître aux éditions Fayard.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor.
Nasci menino longe da cidade, no semiárido lá do sertão. Não tinha água, tampouco comida, até que Lula veio e deu a mão. Um belo dia já conheci uma galeguinha linda.
Foi
meu primeiro amor.
Foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Foi
meu primeiro amor.
Foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Et c'est avec Luca Santana et Duda Beat pour cette très belle chanson que nous allons nous quitter. Mais je voudrais remercier l'équipe des filles. Vous avez remarqué, Olivier Rollinger, il n'y a que des filles dans la cabine.
Oui.
Merci
magnifique.
À Elisabeth Collet qui merci, était à madame. La technique ce soir. Merci à Élodie Royer qui a préparé cette émission avec Louise Douillet. Et merci à Claire Destacan qui l'a réalisée. Alors un petit salut quand même à Adrien qui nous a un peu aidé, mais moins que les filles. Et puis un grand salut aussi à Mishka qui sera après le prochain journal d'information, comme chaque soir, pour nous présenter et pour nous proposer des chanteurs et des chanteuses qui vont nous emmener, comme vous Olivier Rollinger, loin, très loin, très loin.